écoutez Radio France Internationale, il est 1h ici à Paris, 23h en temps universel.
Galé Bonin.
À la une de ce journal, des pourparlers productifs à Oman, les États-Unis et l'Iran ont abordé le programme nucléaire iranien dans des discussions indirectes. Un pays observe attentivement ces développements, Israël, qui espère toujours pouvoir mener des frappes en Iran. Au Royaume-Uni, les parlementaires votent en urgence une loi pour récupérer British Steel. Les propriétaires chinois du groupe menacent de fermer les deux derniers hauts fourneaux à acier du pays. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à un rassemblement pro-gouvernement en Serbie et en Argentine. L'impressionnant prêt de 42 milliards de dollars permettra-t-il au pays de sortir de la récession? C'est ce que promet le président ultralibéral Javier Milei.
RFI.
Washington et Téhéran saluent des discussions productives à Oman. Des délégations des deux pays ont tenu des pourparlers indirects sur le dossier du nucléaire iranien. Les premières du genre depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les États-Unis saluent un pas en avant et l'Iran assure que les deux parties se sont rapprochées d'une base de négociation. Une nouvelle rencontre est prévue samedi prochain. Et un pays suit de près ces rencontres. C'est Israël, ennemi numéro un de l'Iran dans la région. Avec le retour de Donald Trump, Tel Aviv espérait pouvoir frapper militairement les sites d'enrichissement d'uranium du régime iranien, une perspective qui se réduit au fil des mois, sémant le doute sur la suite des événements. À Jérusalem, la correspondance de notre envoyé spécial Abla Junaidi.
Plusieurs responsables israéliens ont exprimé leurs doutes dans la presse locale. La fenêtre d'opportunité pour frapper le régime iranien est là, selon eux, ses alliés dans la région Hezbollah et Hamas affaiblis, son système antimissile S-300 détruit par Israël en novembre dernier. Et pourtant, les mois passent et Donald Trump tarde à donner son feu vert à une intervention. Du point de vue israélien, les positions du président américain ne disent rien de ses intentions réelles. Donald Trump oscille entre la promesse d'un enfer à Téhéran et la volonté d'accentuer simplement la pression sur le régime pour obtenir un accord. Mais quel genre d'accord? Là aussi, Tel Aviv doute. Si Donald Trump devait favoriser un accord à peine meilleur que celui de 2015, simplement pour proclamer une victoire symbolique, mais sans répondre à la menace nucléaire de Téhéran, ce ne serait pas satisfaisant pour le gouvernement israélien. Benjamin Netanyahou imagine à la rigueur un scénario à la libyenne. Après l'invasion américaine de l'Irak en 2003, la Libye a complètement renoncé à son programme d'armes nucléaires pour éviter la menace de la force militaire américaine, considérant que la suite a été fatale aux dirigeants libyens. Cette issue n'est pas envisagée par Téhéran. Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
Le bras de fer entre Pékin et Washington infligera de graves préjudices aux pays les plus pauvres. Déclaration du ministre chinois du Commerce qui affirme que les surtaxes américaines pourraient même déclencher des crises humanitaires. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a adouci son offensive contre la Chine. Les smartphones, les ordinateurs et autres produits électroniques ne seront pas soumis à la taxe américaine de 140% sur les importations chinoises. Les marchandises concernées représente plus de 20% des importations chinoises aux États-Unis. À Londres, le Parlement britannique vole à la rescousse de British Steel. Au cours d'une session exceptionnelle, samedi, les députés et les lords ont adopté une loi d'urgence pour prendre temporairement le contrôle de ce fleuron de l'industrie britannique. L'entreprise, propriété d'un groupe chinois, menace de fermer la dernière aciérie du pays. À Londres, la correspondance d'Emeline Vain.
Le propriétaire chinois de British Steel ne ravitaille plus la scierie en matières premières. La loi votée ce samedi donne le contrôle de l'entreprise au ministre Jonathan Reynolds.
Ce sera temporaire, je ne garderai pas ces pouvoirs une minute de plus que nécessaire. Mais la renationalisation reste une possibilité, peut-être bien la plus probable.
2700 emplois sont menacés 40 ans après la privatisation. Liam Byrne dirige le comité sécurité économique.
British Steel fournit 95% de notre infrastructure ferroviaire, les trois quarts des matériaux pour chaque projet de construction majeur dans ce pays. British Steel n'est pas seulement un pilier de l'industrie britannique, c'est la clé de voûte de notre sécurité économique.
Les députés sont unanimes, il faut soutenir l'aciérie. Mais ces problèmes sont connus depuis longtemps et accentués par les droits de douane de Donald Trump. Il aurait fallu agir plus tôt, selon le conservateur Andrew Griffiths.
Le député local alerte depuis septembre. septembre. Le 4 avril dernier, un reportage de Sky News montrait qu'il ne restait que quelques jours avant l'extinction des hauts fourneaux.
Le gouvernement n'a pas encore estimé le coût de la reprise de contrôle pour le contribuable. Emeline Van Londres, RFI.
En Serbie, plus de 50 000 personnes se sont rassemblées dans les rues de la capitale pour afficher leur soutien au président Aleksandar Vučić. Chiffre d'un groupe de comptage indépendant, la mobilisation organisée par le parti au pouvoir se voulait une réponse au mouvement de manifestations étudiantes qui secoue le pays depuis le mois de novembre. Le président nationaliste attribue ce soulèvement à des puissances étrangères contre ce qu'il qualifie de la Serbie libre. Au Brésil, Jair Bolsonaro s'est envolé à bord d'un avion médicalisé, direction Brasilia, la capitale du pays, où il subira probablement une opération. L'ancien président, âgé de 70 ans, a été hospitalisé vendredi dans le nord-est du Brésil pour de fortes douleurs abdominales. Jair Bolsonaro a déjà subi plusieurs interventions chirurgicales depuis l'attentat à l'arme blanche qu'il a subi durant sa campagne présidentielle de 2018. En Argentine, le gouvernement conclut une série de prêts pour une somme totale de 42 milliards de dollars. L'aide vient du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement. Objectif, remettre l'économie argentine sur les rails de la croissance. Car malgré les réformes draconiennes du gouvernement Milei, l'Argentine était encore en récession en 2024. Agnieszka Kumor.
Le président ultralibéral Javier Milei a de quoi se féliciter. Grâce à ce fonds de 42 milliards de dollars au total, le gouvernement argentin espère reconstituer les réserves de la Banque centrale et relancer la croissance. L'activité de la troisième économie d'Amérique s'est encore repliée de 1,8% en 2024, mais l'austérité a porté ses fruits. L'Argentine a réussi à dégager son premier excédent budgétaire depuis 14 ans et une inflation chronique ces dernières années a été ramenée à 117% contre 211 en 2023. Ce nouveau prêt est donc clairement un signe de reconnaissance des bailleurs internationaux pour les progrès réalisés, au prix toutefois d'énormes sacrifices pour la population, entre emplois perdus, subventions à l'énergie et aux transports réduites et retraites reniées. Les fins de mois des Argentins sont difficiles. Début 2024, la pauvreté avait bondi à plus de 50% avant de se stabiliser à 38% actuellement.
Les précisions d'Agnieszka Kumar du service économie de RFI. Repérer et accompagner les potentiels champions paralympiques français de demain, dire à des personnes en situation de handicap qu'un avenir dans le sport de haut niveau est possible, c'est ce que tente de faire chaque année le comité paralympique et sportif français à travers un événement qui s'appelle la Relève. Ce programme de détection de talents en est à sa 6e édition. Cette année, 28 participants rassemblés à l'INSEP à Paris y sont évalués et conseillés en fonction de leur potentiel et de leurs envies, afin de devenir un jour, pourquoi pas, les successeurs des médaillés des Jeux de Paris 2024. Christophe Diremzian.
Vas-y. Bien.
Parmi les participants en plein effort figure peut-être un champion qui s'ignore. Présélectionnés parmi 250 inscrits, ils sont testés sur leur vitesse, leur force et leur agilité. Pratiquant de sport ou non, c'est la volonté de rebondir après un accident de la vie qui anime Charlène Avrez de 30 ans, récemment amputée de la jambe.
Dans le centre de rééducation où je suis, il y a beaucoup d'activités sportives et je me suis trouvé des capacités que j'aurais jamais pensé avoir. J'ai beaucoup été inspirée aussi par Alexis Quinquant qui avait été en rééducation là où j'étais hospitalisée. Quand on voit son parcours, pourquoi pas nous ?
Des experts de 18 fédérations sont là pour orienter vers la bonne discipline, pas forcément celle imaginée au départ, explique Jean-Christophe Rambaud de l'équipe de France de volley assis, repéré en 2019.
Moi, je me serais jamais mis à aller faire du volley assis avant la relève, et pourtant ça valait le coup. Donc les athlètes, il faut qu'ils soient ouverts à toutes les possibilités et de se dire que j'étais venu pour faire de l'athlé et finalement il va peut-être repartir en faisant de l'aviron. C'est pas très grave, surtout si on veut peut-être un jour accéder aux Jeux Paralympiques.
Car l'objectif est bien de préparer les prochaines Paralympiades, même si pour Los Angeles 2028, c'est déjà un peu juste, confesse Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique français.
Préparer un athlète en 4 ans, c'est de moins en moins le cas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas passé à côté d'un talent paralympique qui pourrait se révéler en quelques années. C'est surtout vrai chez les féminines.
Encore faut-il que les femmes osent davantage se lancer. Or, cette relève 2025 n'en a attiré que 4.
Le reportage de Christophe Diremzian qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.